Chapitre 55. Seule photo que j'ai trouvée de lui. Je l'ai découpée derrière un de ses livres. Elle date de 1993. Il avait 35 ans à l'époque. Notre homme s'appelle en réalité Christian Lavache. Je comprends qu'il ait choisi un pseudo. Gabriel observa le portrait que lui présentait Paul. 35 ans en 1993. Ça voulait dire 49 lors de sa rencontre avec Julie. Visiblement, malgré son succès, Caleb Traskman savait autant protéger sa vie privée que le faisait le personnage principal dans son dernier bouquin, cette Leanne Morgan. Aucune info sur lui sur Internet, rien. J'ai quand même déniché des articles de presse. Dans ses rares interviews, il ne parle que de son œuvre, jamais de sa vie personnelle. Il ne permettait pas qu'on le photographie. Il semblait assez torturé et évoque à plusieurs reprises le fait, accroche-toi bien, que s'il n'avait pas écrit toutes ces histoires très sombres, il serait probablement devenu criminel. Ça n'a pas l'air d'être raconté sur le ton de la plaisanterie. L'homme aux cheveux longs et noirs portait de larges lunettes au vert légèrement teinté qui lui coupaient le visage en deux. Un bouc taillé au cordeau, contrasté avec une peau d'une blancheur presque maladive. Il fixait l'objectif de trois quarts sans sourire, comme s'il cherchait à se dérober. « T'es allé voir Romuald Tanchon avec ce cliché ?» demanda Gabriel. « Oui, juste avant de prendre la route. Évidemment, il n'a plus le moindre souvenir de l'avoir vu. Tu m'étonnes, comment se rappeler après autant de temps ?»« À ma connaissance, personne n'a parlé d'écrivain présent à Saga à l'époque. Traskman est venu sans fanfare, s'est fondu dans la masse. Mes gars ont passé quelques coups de fil. Comme indiqué dans la préface, l'écrivain est décédé en 2017, le suicide n'est pas contestable. » Il s'est tué à 400 mètres de chez lui d'une balle dans la tête. Deux témoins marchaient sur la plage à ce moment-là. Vu l'état du visage, le fils n'a pas pu l'identifier, mais l'ADN a confirmé l'identité. De ce fait, le dossier a été vite plié. Sa femme était morte quelques mois plus tôt, Traskman était suivi pour dépression, point barre. Paul écrasa son index sur la couverture. Le manuscrit inachevé est le roman posthume de Traskman. Tu l'as lu toi-même, l'histoire se passe fin 2017. Avec des faits d'actualité et des techniques de police, démontrant qu'il l'a nécessairement écrit à cette période-là, et non aux alentours de 2007. Dans la préface, le fils explique que son père n'a pas imaginé le dénouement, mais nous, on sait où se cachait la fin originale. Entre les mains de David Esquimet. Exact. Ça a contraint le fils à prendre la plume. Les dénouements sont certes différents, mais il a bien su décrypter les différents ressorts imaginés par son paternel pour proposer une conclusion cohérente. Paul but une gorgée de bière. Difficile d'expliquer comment Esquimet s'est procuré ces pages, mais une chose est sûre, il voulait nous mener avec ses indices au manuscrit inachevé. Tout comme Caleb Traskman, en écrivant ce livre, voulait révéler de façon cachée et subtile sa responsabilité dans la disparition de Julie. C'était d'une certaine manière sa confession post-mortem. Un moyen de livrer ses crimes à ses lecteurs, mais sans que ces derniers s'en aperçoivent. Ce qui est encore plus pervers. Un silence. Paul se racla la gorge et continua. C'est un livre sacrément barré, avec ses histoires de manuscrits dans le manuscrit. Un vrai jeu de poupées russes, qui montre l'esprit particulièrement complexe et tourmenté de Traskman. Un labyrinthe mental. Paul sortit un carnet sur lequel il avait pris des notes. On peut dire ça, oui. Enfin bref, j'ai listé les éléments découverts au fil des pages. Et qui ne laisse aucun doute quant à l'implication de Traskman dans notre affaire. Sur le fond, mais surtout sur la forme. Le fond d'abord. Le manuscrit inachevé est un des romans indépendants dans l'œuvre de l'écrivain, avec des personnages inédits. Sarah Morgan, une jeune fille de 17 ans, se volatilise un soir lors d'un entraînement sportif. Comme ta fille. Même âge, physique très proche. Dans une mise en abîme de son propre métier, Traskman parle d'écrivain à l'esprit torturé, d'être abject, capable des pires horreurs, séquestration, perversité, meurtre. Un exemple. La longue confession d'un violeur et meurtrier récidiviste, plutôt, jamais attrapé, et qui décide de tout avouer à travers un roman dans ses vieux jours. Paul posa sa main à plat sur le livre de manière à appuyer ses propos. Mais la fiction de son roman, c'est notre réalité. Il est évident, lorsqu'on connaît toute l'histoire, que Traskman évoque sa personnalité, ses démons, son goût pour le crime. Il décrit les scènes avec une précision chirurgicale. C'est comme si on y était. Tu te rappelles le siamois à deux têtes dans le carnet de Julie ? C'est lui le monstre. C'est lui celui qui, derrière une certaine forme de normalité, accomplit le mal. Et il ne s'est pas suicidé parce que sa femme était morte, ou parce qu'il était en dépression, mais pour ce qu'il avait fait dans la réalité. Paul hocha la tête et se replongea dans ses notes. L'immortel de Kasparov est également cité. Elle tient une place essentielle dans l'histoire et la traque du coupable. Sans oublier que, au début du roman, il est question d'une Ford grise avec de fausses plaques, dans laquelle est découvert un corps. Exactement le véhicule utilisé pour kidnapper Julie. Gabriel aussi avait remarqué ces détails. Comment aurait-il pu en être autrement? L'histoire du manuscrit inachevé l'avait pénétré au plus profond de sa chair. D'autant que, hormis ce dont lui parlait Paul, l'un des personnages principaux était amnésique, comme lui. Malgré son silence, son ex-collègue poursuivait sa démonstration. Pourtant, l'histoire en elle-même n'est pas celle de ta fille. L'enquête des flics ne ressemble en aucun cas à la nôtre, puisque, dans le livre, ils travaillent sur un homicide du côté de Grenoble. En fait, le récit répond simplement à la mécanique de ce genre de roman. Enlèvement, meurtre, suspense. Avec ces seuls éléments, c'est-à-dire avec le fond, ce serait difficile de prouver à 100% la culpabilité de Traskman. Après tout, n'importe qui a pu suivre l'affaire de la disparition de Julie, tellement elle a été médiatisée, et inventer une fiction à partir de là. Mais en ce qui nous concerne, il y a aussi la forme. Il ouvrit son exemplaire à différentes pages préalablement cornées. Ressacé, Laval, Noyon, Abba, Xanax, tous les palindromes notés à la centrale hydroélectrique sont soulignés dans le livre. Le fils lui-même, dans la préface, admet qu'il ignore pourquoi son père les a mis en valeur de la sorte. Mais ne manie-t-il pas l'art de l'illusion, de la magie à la perfection ? Je vous montre quelque chose, mais vous ne le voyez pas. En braquant le projecteur sur ses palindromes, Caleb Traskman pointait sans doute du doigt Saga, un autre palindrome. Évidemment, c'est invisible, et c'est seulement avec une vision d'ensemble que l'on peut comprendre chaque partie. Traskman était un grand stratège. Il voulait livrer une confession codée quasi indétectable. De ce fait, il a utilisé un tas d'astuces qui, une fois rassemblées et interprétées, mènent à une forme de vérité. Il est l'auteur d'un crime inavouable. Comme pour les noms de certains de ses personnages. Paul acquiesça avec entrain. T'as remarqué aussi ? Julianne Morgan, Judith Meuderoy. Les deux premières lettres des noms et prénoms. Ju-mo, en référence à Julie Moscato. D'autres détails de cet acabit parsèment le bouquin. Le numéro de plaque de la voiture volée. JU-202-MO. Et puis cette citation incompréhensible de début de roman. Juste un mot en avant. Un xyphophore, t'as capté ? Gabriel secoua la tête. Avant-hier, j'ai vu ce mot dans le dictionnaire quand j'ai voulu trouver la signification exacte de xyphopage, expliqua Paul. Xyphopage est le mot qui précède xyphophore. Juste un mot en avant, un xyphophore, nous renvoie donc à xyphopage. Le monstre double dessiné dans le carnet de Julie. L'un avec le faciès jovial et l'autre particulièrement effrayant. Un symbole, commenta Gabriel. Il y a la part de soi que tout le monde voit et celle qui est maléfique. Exactement. Et Caleb Traskman cite même le xyphopage dans son dénouement. C'est dire s'il y tient. En permanence, l'écrivain joue sur cette ambivalence dans le livre. D'une certaine façon, il a caché son crime dans le manuscrit inachevé et le montre à tout le monde, mais personne ne le voit. Et ça, bon Dieu, c'est sacrément culotté. Voilà ce que je pense. Caleb Traskman est l'homme venu habiter de façon anonyme le chalet des Esquimets durant l'été 2007 pour écrire ou imaginer l'un de ses romans, Senon, publié l'année d'après. Senon est le nom d'une ville imaginaire, identique en tout point à Saga. Il est d'abord resté à l'hôtel de la Falaise où il a fait la connaissance de Julie, avant de s'installer au Lac Noir. Là, il a poursuivi sa relation secrète avec ta fille. Ils ont eu une aventure à la fois intellectuelle et physique qui s'est mal terminée. Peut-être dans un accès de folie, Traskman a-t-il voulu emmener Julie et elle a refusé. Une fois chez lui, ses démons le torturent. Il n'arrive pas à l'oublier, elle l'obsède. Il la veut auprès de lui. Il exige qu'elle lui appartienne. Alors, environ 6 mois plus tard, il commandite son kidnapping. Au cours de ses recherches pour ses romans, il a dû développer un important réseau. Des flics, des juges et, à l'opposé, un tas de racailles qui l'ont peut-être un jour rencardé. Parmi eux, des contacts qui mènent à la bande de Vanda Gershwitz, des mercenaires prêts à tout pour de l'argent. Gabriel essayait de visualiser le scénario, de faire des liens avec l'histoire du manuscrit inachevé. Jusqu'à quel point cette intrigue était-elle autobiographique ? Le destin de la jeune fille enlevée dans le roman, Sarah Morgan, était-il de bout en bout inspiré de celui de Julie ? Si tout ça est vrai, nuança-t-il, que viendrait faire Mathilde Lourmel là-dedans ? Quel est le rapport avec le tableau ? Et les photos morbides d'Esquimet ? Je ne sais pas, Gabriel. Cette histoire de photos et de tableaux est encore un mystère. Mais pour le reste, les gars ont vérifié sur Internet. La maison au bord de la mer du Nord dont parle Jean-Luc Traskman, celle où il aurait trouvé le manuscrit de son père, celle-là même qu'habite Léane Morgan dans le roman, elle existe réellement. Tu as lu, comme moi, dans le bouquin, le nombre de fois où Traskman insiste sur son isolement. Il raconte que même si quelqu'un criait, personne n'entendrait jamais rien. Gabriel approuva en silence. Le Paul face à lui était celui qu'il avait toujours connu, réfléchi, impliqué, habité par ses enquêtes. D'après son fils, Traskman a planqué ce texte au fond de son grenier avant de se flinguer. Julie était-elle encore à ses côtés à ce moment-là, bien vivante ? Des parcours comme celui de Natacha Campouche nous prouvent que rien n'est impossible en termes de durée de séquestration. Et puis, il y a ces quelques phrases dans la fin originale que le meurtrier échange avec l'héroïne. Il raconte que qu'il a aimé celle qui l'a maintenue prisonnière. Il sortit une copie des pages originales. Il y avait souligné plusieurs passages. Je cite. « Elle provoquait quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Question de gêne peut-être. Alors je l'ai gardée avec moi, chez moi, dans une pièce spéciale. Je ne lui ai pas fait de mal. Ce sont les circonstances qui ont fait que j'ai dû m'en débarrasser, la livrer à celui qui saurait s'occuper d'elle. » Gabriel encaissait, mais le puzzle était toujours loin d'être complet. Que s'était-il réellement passé ? Comment Julie avait-elle pu se retrouver sur une peinture auprès d'une autre disparue ? Quel élément déclencheur avait poussé l'écrivain au suicide ? Traskman l'avait-il livré aux Russes après une longue détention pour qu'ils en finissent ? Paul regarda sa montre. « Déjà 17h ? Avant de partir ce matin, j'ai récupéré l'adresse du fils Traskman. » Je vais aller l'interroger en audition libre et voir si on peut en tirer des informations. Si c'est le cas, je lance les procédures officielles avec les flics du coin. Perquise dans l'ancienne maison de Traskman et tout le toutim. Paul piocha une dernière poignée de chips. Je veux saisir le fils sur le vif. Il habite à une dizaine de bornes d'ici. Et d'après les impôts, il est toujours le propriétaire de la fameuse villa de son père. Il était déjà debout en train d'enfiler sa veste de laine quand il balança ses consignes. « Donne-moi un sac poubelle. On emballe le tableau par précaution. Je le récupérerai quand je repartirai pour Saga. Toi, tu travailles en off sur la piste de la boutique à Bruxelles. T'essaies de savoir d'où vient cette peinture, mais tu ne fais pas le con. Si t'apprends quelque chose, quoi que ce soit, tu ne vas pas plus loin et tu me transmets. Je pense qu'à ce moment-là, il faudra impliquer la police belge. Mais pour l'instant, je dois rester ton seul contact. » Tout en ouvrant ses placards en quête d'un sac, Gabriel désigna le coin salon. « Si t'es embêté pour ce soir, ce n'est pas grand, mais il y a toujours le canapé. Te bile pas. J'ai prévu de prendre un hôtel aux frais de l'armée. Les factures, c'est parfait pour justifier que toi et moi, on n'a aucune forme d'acquaintance. Plus on gardera une distance entre nous, mieux ce sera. Je repasserai demain. » Gabriel photographia le tableau avant qu'il l'emballe. Lorsqu'il vit le visage de sa fille disparaître derrière le plastique noir, il sentit la tristesse l'envahir. « Elle est morte, Paul. Il n'y a plus le moindre doute. » Paul glissa le tableau sous le lit. Oui, Julie était vraisemblablement morte. Comment pourrait-il en être autrement ? Il avait lu, durant la nuit, l'une des histoires les plus sombres qui lui avait été donnée de lire. Le manuscrit inachevé était la négation même de la lumière, un trou noir engloutissant tout. Il ne trouva pas la force de rassurer l'homme abattu à ses côtés. Lui redonner espoir, c'était lui mentir. Alors, pour toute réponse, il lui tapota affectueusement le dos, comme l'aurait fait l'ami de jadis.